Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, c'est avec Donna Madimba.
Après la correction et la publication ultra rapide de l'examen d'État cette année en République démocratique du Congo, ce diplôme congolais franchit un nouveau pas vers l'instantanéité et la modernité. Il a désormais un diplôme disponible électroniquement pour tout lauréat de cette année depuis hier. La ministre de l'Éducation nationale elle-même a annoncé cette nouveauté et selon elle, il suffit d'aller sur la plateforme diplôme.cd. Le Monde commémore aujourd'hui, 21 septembre, la Journée internationale de la paix. Dans plusieurs provinces de la RDC, populations et acteurs spécialisés accentuent le travail d'invitation à la paix. Dans ce journal, un opérateur économique du Nord Kivu a décidé de prendre lui aussi la parole à ce sujet. L'invité de ce journal, Albert Nzefak, directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Il nous parle du rapport de la situation économique de la RDC de l'année 2024, rapport présenté mercredi à Lubumbashi aux opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises de la RDC FEC en sigle. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et installez-vous confortablement pour avancer avec nous dans ce journal. Avant d'aller dans les détails, d'abord, cette information, Félix Tshisekedi est arrivé ce dimanche à New York, aux États-Unis. Le président de la RDC va participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dès demain lundi, il prendra part aux activités commémorative du 80e anniversaire de l'ONU, placé sous le thème « Mieux ensemble », plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits de l'homme. Félix Tshisekedi s'exprimera devant cette assemblée mardi en début de soirée à 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Goma. Il participera également au sommet des chefs d'État et de gouvernement dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, une remise en cause croissante de multilatéralisme et des crises sécuritaires. Selon une dépêche de la présidence publiée aujourd'hui, le chef d'État profitera de cette tribune internationale pour intensifier son plaidoyer en faveur de la reconnaissance du génocide congolais, soit le génocide pour des fins économiques. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté de la RDC a annoncé hier la mise à disposition des premiers diplômes électroniques pour les lauréats de l'examen d'État 2024-2025. Ces documents numériques sont désormais accessibles via la plateforme diplôme.cd dans le cadre d'une réforme visant à moderniser le système éducatif de la RDC. Selon un communiqué officiel du ministère, l'e-diplôme est un outil numérique sécurisé reposant sur la technologie blockchain, garantissant l'intégrité des données et la transparence du processus. Les détails supplémentaires avec vous, Blaise Makassi.
Cette initiative menée par le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté a pour objectif de simplifier et de sécuriser l'inscription des élèves dans des universités tant au niveau national qu'international, indique le communiqué du ministère. L'e-diplôme pour sur les documents est un outil numérique innovant qui révolutionne la gestion des diplômes d'État en République démocratique du Congo. La sécurité de la plateforme est assurée par l'utilisation de la technologie blockchain, garantissant ainsi l'intégrité des données et la transparence du processus. Les universités ainsi que d'autres institutions auront accès à ces diplômes simplement en scannant les QR codes à partir du téléphone mobile ou en utilisant les informations personnelles du candidat. L'inspection générale, organe technique de cette réforme, poursuit son travail afin de générer progressivement les diplômes des années antérieures. Ainsi, poursuit le communiqué, tous les diplômés anciens comme actuels pourront accéder à leurs données sur une seule et même plateforme.
Merci à vous, Blaise Makassi. Sensibilisation des élèves malentendants à la nuisance de la pollution plastique sur la santé et le cerveau des enfants et son impact sur l'apprentissage. Nous allons suivre ce reportage de Denise Lukesso.
Dans la cour de l'Institut Efata, situé dans le quartier Les Volcans, des dizaines d'élèves suivent avec attention une séance de sensibilisation à un sujet qui touche leur quotidien, la pollution plastique. Les sensibilisateurs rappellent que ces déchets, souvent brûlés ou abandonnés, détruisent les sols, empoisonnent les rivières et menacent même la santé humaine et le cerveau de l'enfant à l'apprentissage. Le responsable de l'ONG insiste sur la responsabilité collective et inclusive.
Ces enfants, une fois sensibilisés, vont amener le message à la maison. Donc on suppose déjà que le message sera bien relayé et que les familles aujourd'hui seront aussi informées.
Ici, l'éducation devient une arme efficace pour bâtir un avenir plus propre. Amos Doulinabo, préfet des études à l'Institut Nema Efata, parle de l'importance du choix de cette catégorie d'élèves.
Nos enfants sourds, c'est un groupe d'individus qui sont écartés et pourtant l'impact des plastiques touche à la fois les gens qui écoutent et les gens qui n'écoutent pas.
Et pour les élèves, le message est clair, ils promettent de changer leurs habitudes.
Moi, ce que j'ai retenu, ce n'est pas bon d'utiliser les objets plastiques pour les nourrir chaudes. Je vais arrêter ça pour éviter les maladies mentales.
Les populations continuent à fuir des exactions commises par les rebelles du M23 dans les zones de la province du Nord Kivu qui sont sous leur contrôle. Certains de ces déplacés sont déjà dans la ville de Beni où ils vivent dans la précarité. Ainsi, les jeunes volontaires de Beni réunis au sein de l'organisation Initiative Congo Debout évaluent leurs besoins réels depuis vendredi dernier pour essayer de leur apporter leur aide. Écoutons à ce sujet Noëlla Nechi, coordonnatrice de cette organisation. Elle est au micro de Marc Marot.
Dans le cadre de cette activité, on va travailler avec les personnes qui sont en situation de vulnérabilité parce que Beni, c'est une ville qui a accueilli encore beaucoup plus de déplacés avant la chute de Goma et Bukavu. C'est pour cela qu'on est venu ici pour apporter une réponse humanitaire tenant compte des besoins qui sont sur le terrain. Nous allons d'abord commencer par une identification de besoins. On ne va pas seulement travailler à Beni, on va travailler dans le Grand Nord. Nous veillons on sait que notre réponse soit humanitaire et aussi une touche de développement dans notre réponse. C'est pour cela qu'on étudie au préalable la question afin de trouver une bonne réponse. Nous pensons que partout où nous allons passer, la population sera flexible et clémente avec nous et accepter de collaborer pour qu'ensemble nous puissions trouver une réponse inclusive en tenant compte de toutes les réalités du milieu et de toutes les personnes qu'on va trouver comme bénéficiaires.
Province de l'Ituri, des centaines de familles fuient depuis vendredi leur village de Mukasila au sud du territoire d'Irumu. Selon des sources coutumières, c'est à la suite des présences de rebelles, des ADF, dans les villages environnants. Des défenseurs des droits humains plaident pour le renforcement des effectifs des militaires de la coalition FRDC armée ougandaise dans cette zone. Le point avec Martial Kiza.
Les premiers mouvements des populations étaient observés dans la mi-journée des vendredis. Des centaines de familles, à majorité des femmes et des enfants, avec des colis sur la tête ou sur les dos, partent de Mukasila pour les zones jugées plus sécurisées. Une personne jointe au téléphone déclare, je cite, « Nous étions au champ et nous avons vu des colonnes des ADF proches de notre village, ce qui nous oblige à quitter notre milieu de pères d'être la cible de ces rebelles. » Fin de citation. Des sources coutumières indiquent que c'est hors la loi ont traversé jeudi dernier à des reprises la route nationale numéro 4. Cette situation, selon les mêmes sources, crée la psychose parmi la population composée majoritairement des retournés. Certains activistes des droits humains disent avoir alerté les forces conjointes FRDC, armée ougandaise UPDF. Ces deux forces sont à la poursuite de ces rebelles dans la forêt des Bakpoulou où ils chercheraient à se réorganiser pour déstabiliser de nouveau cette région après environ un mois d'accalmie observée. observés, indiquent des sources de la société civile. Bounia, Martial Kizabiabongou, Radio Okapi.
Partons dans la province du Nord, qui vous pour relayer ce cri d'un citoyen qui connaît la résilience. La guerre est un cycle qui se répète, marquant la vie de la population d'une décennie à l'autre. À la fin de chaque conflit, l'espoir d'une paix durable renaît, mais une nouvelle guerre éclate avant même que les souvenirs de la précédente ne s'effacent. Les dirigeants se sont succédés, mais la guerre, elle, est restée, persuadée que ces conflits sont alimentés par les grandes puissances. Un opérateur économique du Nord Kivu rappelle qu'au-delà du pouvoir, ce sont des conséquences des actes des dirigeants qui laisseront des traces. David Katumbi s'est confié au micro de Rosalie Zawadi.
Nous formerons le vœu auprès de puissants de ce monde pour qu'ils nous donnent la paix au lieu de nous laisser dans des conflits inutiles qui tuent la population. C'est-à-dire, en donnant la paix au monde, ils seront beaucoup plus écoutés et leurs noms resteront dans les annales de l'histoire que de distribuer des conflits armés inutiles pour une richesse qui passe. Personne n'atteindra 100 ans renouvelables deux fois. Donc, sémons la paix, laissons le nom pour que l'histoire puisse en parler que telle génération avait laissé la paix au lieu de laisser les conflits. Alors, nous implorons le puissant de ce monde de nous donner la paix au lieu de consolider les conflits dans le monde entier. C'est vraiment honteux de voir les gens s'entretuer et nous tous, nous sommes des passagers. Nous demandons ardemment aux puissants de ce monde de semer la paix au lieu de semer les conflits.
Toujours par rapport à la paix, mais aussi en rapport à la Journée internationale de la paix commémorée aujourd'hui au Maniema, le Caritas Développement Kindu, à travers son bureau diocésain Justice et Paix, a organisé hier une production folklorique de communautés tribales. Cette production a porté sur la paix, la non-violence et le bien vivre ensemble au Maniema. Cette activité riche en couleurs s'est déroulée dans la salle folle d'Arema en présence des différentes couches des populations dont les autorités provinciales. Florence Kiza a participé à cette activité. Voici son reportage.
Chant, danse et slam ont caractérisé cette activité. Différentes communautés qui n'arrivaient pas à se mettre ensemble en ont profité. Afanja Akanya Daniel est de la communauté Bakwame.
Nous tenons à remercier les organisateurs de cette cérémonie de pouvoir songer à mettre ensemble les différentes communautés pour la valorisation de la paix dans la province du Maniema en particulier et en République démocratique du Congo en général.
Présente, la communauté Zimba lance un appel à toute la population. Mauricio Aloïso, vice-président.
Nous avons chanté et dansé pour prêcher la paix. C'est ainsi que la communauté Zimba appelle tous les Congolais à vivre dans la paix.
Le gouvernement provincial salue ce genre d'activité qui fera que la province se développe, a déclaré le représentant du gouverneur, Amissi Mutumoko.
C'est ce que nous voulons, qu'à chaque occasion, on puisse parler de la paix, parce que sans la paix, même tous les objectifs de développement ne seront pas atteints.
Pour sa part, la commission diocésaine Justice et Paix est satisfaite d'avoir atteint son objectif de sensibiliser la communauté sur la paix. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Province du Nord Kivu, une fois encore, une cinquantaine de leaders et représentants de la population d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, ont été sensibilisés samedi autour de l'importance de la paix par l'organisation Africa Amani. Objectif, inciter les participants à s'impliquer davantage dans les efforts pour la recherche de la paix, mais aussi combattre le chômage ennemi de la paix à travers l'entrepreneuriat. Explication des Zeno Kasomo de l'organisation Africa Amani au micro de Marc Marou.
Le mot paix qui est un mot vaste, qui est un mot large, que les gens comprennent peut-être d'une manière brève. Aujourd'hui, il y a une confusion dans le territoire de Beni où la population ne fait plus confiance à l'État, aux autorités, et les autorités même commencent à accuser la population, soit pour dire que non, parmi vos enfants, il y a ceux qui ont adhéré dans ces mouvements. Et maintenant, l'ennemi va profiter dans cette confusion. C'est pourquoi il faut d'abord faire un pont entre les autorités et la population, sensibiliser la population que même la population a une part dans la pacification. Dire aux autorités minorité aussi. Cette population peut avoir des naïvetés, des faiblesses. Voilà comment il faut collaborer avec et comment il faut vivre avec la population. Le deuxième ennemi pour la pacification, c'est le chômage. Nous sommes en train de produire des diplômes d'État, des diplômes de gradués, des diplômes de licence, mais que nous ne savons pas embaucher. Et ces jeunes gens, quand ils sont désœuvrés, facilement, ils sont tentés d'aller vers les groupes armés. Alors, Africa Money est venu avec une option d'entrepreneuriat et a aidé ces jeunes à devenir de nouveaux entrepreneurs. Comme ça, au lieu d'aller dans des groupes armés, ils pouvaient se focaliser dans leur entrepreneuriat, c'est reproductif, et voilà, petit à petit, la paix pourra revenir.
Le président de la République appelle au renforcement des mesures de prévention des naufrages sur les voies navigables, notamment l'interdiction de la navigation nocturne. Il exige l'aboutissement sans complaisance des enquêtes en cours sur les derniers naufrages survenus les 10 et le 11 septembre dans la province de l'Équateur, coûtant la vie à plusieurs Congolais. Félix Tshisekedi l'a dit au cours de la réunion du Conseil des ministres vendredi à Kinshasa. On écoute Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait du compte-rendu proposé par Grace Hamzati.
Il estime qu'il est possible d'y mettre fin à condition que chaque acteur, au sein de l'État comme dans la société, assume pleinement sa responsabilité. Dans cette optique, il a invité le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voie de Communication et de Désenclavement, à dresser dans les plus brefs délais un état des lieux exhaustif de la navigation fluviale et lacustre en rapport avec les mesures déjà instruites. À renforcer ces mesures, notamment par la fermeture immédiate de tous les lieux d'embarquement clandestins, la traçabilité obligatoire des embarcations et l'interdiction stricte de la navigation nocturne. Engager une campagne de sensibilisation et de responsabilisation des opérateurs privés et publics ainsi que de communautés riveraines afin d'assurer une appropriation collective des règles de sécurité, notamment le port des équipements de sauvetage lors des embarquements. Le président de la République a également insisté sur l'accélération du processus d'acquisition et des mises en service des bateaux modernes, sécurisés et adaptés aux réalités de voies du pays.
Actualité internationale.
En dehors de la RDC, une cyberattaque de système d'enregistrement électronique des passagers a perturbé hier samedi le fonctionnement de plusieurs aéroports européens. L'attaque a visé Collins, une entreprise américaine spécialisée dans les technologies aéronautiques et de défense.
L'invité.
Notre invité, Albert Nzefak, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC. La Banque mondiale a présenté mercredi dernier à Lubumbashi le rapport de la situation économique de la RDC en 2024. On l'écoute au micro de Paulin Moulingre.
Monsieur Albert Nzefak, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de présenter le rapport sur la situation économique de la RDC de 2024. Quelle a été la santé de l'économie pendant cette période?
Ce rapport sur l'évaluation de la situation économique de la RDC montre que, en termes de croissance, la RDC a connu un taux de croissance du PIB supérieur à la moyenne africaine, mais ce taux de croissance de 6,5% reste essentiellement tiré par le secteur minier qui est assez volatile. Donc c'est une croissance forte mais risquée puisqu'elle n'est pas tirée par une économie diversifiée. Donc ce rapport évalue également les autres agrégats macroéconomiques, l'inflation, le crédit à l'économie, le taux de change pour dire qu'il y a certainement des efforts qui ont été entrepris mais qu'il faut approfondir.
Quels sont ces efforts?
Les efforts, particulièrement, c'est au niveau des finances publiques, puisque ce rapport montre que la pression fiscale en République démocratique du Congo reste en deçà de la moyenne africaine et de la moyenne d'Afrique au sud du Sahara, une pression fiscale de 12,5% contre une moyenne de 15% pour l'Afrique subsaharienne. Cela nécessite deux choses, que l'État collecte mieux et que l'État revoie les incitations fiscales qui sont en fait un manque à gagner, qui sont censées encourager l'investissement et l'emploi, mais le rapport montre justement que ces incitations fiscales n'atteignent pas nécessairement leur objectif. En réévaluant les incitations fiscales, en s'organisant au niveau de l'administration fiscale pour collecter mieux, mais aussi en réduisant les tracasseries fiscales, en réduisant le rôle de la parafiscalité, les finances publiques peuvent mieux se comporter et la République démocratique du Congo peut collecter jusqu'à 18% de son PIB, ce qui lui permettrait d'investir plus sérieusement dans l'éducation, la santé, les infrastructures, l'accès à l'électricité, qui seront bénéfiques aux entreprises du secteur privé, qui ultimement sont celles qui créent des emplois, donc créent la prospérité.
Je viens d'apprendre ici que la création de l'emploi est de 3% seulement en moyenne chaque année en RDC. Que fait la Banque mondiale pour promouvoir la création de l'emploi dans notre pays?
Alors, la Banque mondiale ne peut pas naturellement créer les emplois à la place des Congolais. Vous serez d'accord avec moi. Que fait la Banque mondiale pour appuyer le gouvernement de la RDC dans les réformes qui doivent permettre au secteur privé d'être prospère et de créer ses emplois? Parce que ultimement, c'est pas l'État qui crée les emplois, c'est le secteur privé qui le fait. Donc, il faut accélérer, approfondir les réformes du climat des affaires, du climat d'investissement pour s'assurer que les entreprises congolaises qui sont en moyenne très petite et qui, avec le temps, en fait, ne grandissent pas, elles ne croissent pas, c'est-à-dire qu'elles n'emploient pas suffisamment de Congolais. Il faut que ces réformes permettent non seulement une augmentation des investissements du secteur privé, mais une création d'emplois plus forte. Et ces réformes, c'est ce que la Banque mondiale soutient à travers des projets comme PADEM PME, comme Transform. C'est des réformes que nous supportons aussi pour améliorer la gouvernance et réduire la corruption, parce que c'est aussi un frein énorme à l'investissement.
80 millions de Congolais vivent sous les seuils de la pauvreté, cela malgré la présence de la Banque mondiale et ses projets en RDC. Combien des Congolais sont sortis de la pauvreté grâce à la Banque mondiale?
Je crois que la véritable question, c'est comment s'organise la République démocratique du Congo pour lutter contre la corruption. Parce que la Banque mondiale est là pour accompagner les gouvernements. La Banque mondiale ne peut pas réduire la pauvreté dans un pays. Elle peut seulement aider le pays et le gouvernement à le faire. Je crois que c'est extrêmement important de le dire. Donc il faut se poser la question, que fait le gouvernement pour réduire la pauvreté et comment la Banque mondiale accompagne le gouvernement dans cet effort. Alors, dans ce sens, nous pouvons vous dire que le déterminant principal de la réduction de la pauvreté, c'est l'emploi. Toutes nos études faites à la Banque mondiale montrent que si l'économie ne crée pas suffisamment d'emplois, la pauvreté ne peut pas reculer. Même s'il y a croissance du PIB, comme c'est le cas à l'heure actuelle, si cette croissance est tirée par le secteur minier qui ne crée pas beaucoup d'emplois productifs, alors il n'y aura pas recul de la pauvreté.
Monsieur Albert Zifak, je vous remercie.
C'est ici que se clôture ce journal. Merci à Alain Goy, Jean Gandou et Lievin Mbwinga qui m'ont aidé à le produire. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Excellente continuation des programmes sur votre radio.